France Culture.
À toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Omabati. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, la journaliste de Libération, Maria Malagardis, revient du Cameroun. Elle nous raconte l'exaspération des Camerounais face à la confiscation du pouvoir par le président Paul Biya et les espoirs de changement à l'occasion de la présidentielle. Et puis la table ronde, nous prendrons des nouvelles de la situation politique aux États-Unis. Expulsion massive de migrants, mobilisation de la garde nationale, attaque contre la presse, la démocratie états-unienne sous pression. Nous en discuterons avec nos invités. Elisa Schell, professeure agrégée de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre qui publie « La démocratie à l'épreuve du populisme » aux éditions Odile Jacob. Et Laurie Kenton, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui publie lui « Rock'n'Road Trip, la route 66 en musique de Chicago à Los Angeles » aux éditions Hors Collection. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Maria Malagardis.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération et c'est au Cameroun que nous emmènent vos derniers reportages. Le 12 octobre, les électeurs étaient appelés aux urnes pour une élection présidentielle. A priori, sans surprise, le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et détenteur du titre de dirigeant le plus âgé du monde, se présentait pour un 8e mandat. Les résultats sont attendus pour le 26 octobre et en attendant, la tension monte, car si les habitants ne se font pas d'illusions sur la mainmise du pouvoir sur les institutions électorales, l'espoir d'un changement est bel et bien là. Et vous avez recueilli, Maria Malagardis, des témoignages d'exaspération, de ras-le-bol face à la confiscation du pouvoir. Cette parole critique s'exprimait-elle facilement, ouvertement, et est-ce nouveau ?
Elle s'exprime très facilement, surtout en raison du niveau de colère et d'exaspération. Donc, effectivement, les gens parlent très librement. Il faut reconnaître qu'au Cameroun, il y a toujours eu une presse assez libre, une certaine liberté d'expression, du moins en apparence, parce que à côté de ça, il y a beaucoup de blogueurs notamment qui ont dû s'exiler parce qu'ils avaient été menacés en raison de leur prise de position. Mais à partir du moment où on ne touche pas à certains sujets tabous qui sont la corruption au sommet de l'État, qu'on ne fait pas des enquêtes trop poussées sur les scandales de détournement de fonds, en fait, les gens parlent dans l'espace public. Les gens parlent beaucoup. Mais je pense aussi qu'effectivement, ce qui était très frappant, moi j'ai eu la chance au cours de mon dernier séjour au Cameroun, là, récemment, de me rendre dans plusieurs endroits très différents, avec des ambiances très différentes. À Douala, la capitale économique, à Yaoundé, qui est la capitale politique, mais aussi à Bafoussam, qui est la capitale de l'Ouest, traditionnellement très rebelle du pays. Et effectivement, c'est ce qui revient à chaque étape. Ce qui revenait, c'est le vraiment, il faut que ça change, on en a marre. Après, effectivement, quand on va voir les gens proches du pouvoir, là, on a un discours totalement différent. Et on a l'impression qu'ils vivent un peu dans une sorte de village Potemkin, persuadés que ce vieux président d'un pays totalement délabré reste au fond assez populaire, mais que le problème, c'était le ministre qui l'a nommé, sachant que Biya n'a pas organisé de conseil des ministres depuis au moins 20 ans. Que 4 ministres sont morts lors de sa dernière mandature sans jamais être remplacés. et que lui-même, il brigue un huitième mandat.
À l'âge de 82 ans.
92.
92, pardon.
Et qui le mènerait à l'âge de 99 ans s'il arrivait au bout.
Oui, je confonds avec l'année de son arrivée au pouvoir qui est 1982. Ce président est aussi souvent absent du pays. Il est souvent malade et il part se faire soigner à l'étranger. A-t-il mené campagne ? L'a-t-on vu, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou dans les campagnes ces dernières semaines ?
Alors, il n'a tenu qu'un seul meeting à Maroua. À la dernière présidentielle en 2018, c'était la même chose. C'était aussi à Maroua, dans le nord du pays, qu'il avait fait un discours de 7 minutes. Effectivement, il est très souvent absent du pays. Pas uniquement pour des raisons de santé. En fait, le paradoxe de Paul Biya, et je crois que c'est Jacques Chirac qui s'en était publiquement étonné, c'est que c'est un, on peut dire, un régime autoritaire, voire une dictature, menée par un homme qui a l'air de s'en désintéresser complètement et qui est en permanence absent. Alors, avec l'âge, évidemment, il est de plus en plus absent, mais c'est pas nouveau et il y a une sorte de... En fait, on a l'impression qu'il s'en fout.
Et qui dirige le pays, alors ?
Alors, on dit... Mais je veux dire, c'est des analyses qui reviennent régulièrement, mais qu'il est compliqué de vérifier parce que le pouvoir au Cameroun est une sorte de tour d'ivoire, de forteresse où personne ne parle. Mais on dit que il y aurait autour de lui deux clans, l'un dominé par sa femme, qui a une quarantaine d'années de moins que lui, Chantal Biya, qu'il a épousée en seconde noces. En 1994, si ma mémoire est bonne, qui est un personnage assez fantasque et extravagant, qui n'a pas l'air comme ça, en apparence, très porté sur la politique, mais semble-t-il, il y a un clan qui se revendique d'elle, et un autre clan qui regrouperait plutôt les gens de la famille et du terroir originel de Paul Biya, qui est dans le sud du pays, dans un pays très fragmenté, hein, où les aspects régionaux, ethniques, continuent à jouer un grand rôle.
Parmi les 11 candidats qui faisaient face à Paul Biya lors de l'élection du 12 octobre, se trouvait l'un de ses anciens ministres, Issa Tchurma Bakary. Et cet homme, 78 ans, a suscité, écrivez-vous dans vos reportages, un engouement inattendu, c'est-à-dire...
Ah ça, ça a été la surprise absolue, parce que c'est vrai que cette élection s'annonçait comme, un peu comme... alors, pas comme la précédente, parce que la précédente, il y avait un vrai challenger, populaire et légitime, Maurice Kamto, qui lui, dont la candidature a été invalidée en août. À partir de ce moment-là, les autres avaient moins d'envergure, surtout étaient hyper divisés, ne voulaient pas entendre d'une candidature commune, chacun roulant pour sur son propre créneau. Et brusquement, un peu avant la mi-septembre, l'un de ces candidats, qui effectivement, comme vous l'avez dit, est un ancien ministre, ça faisait... Alors, c'était aussi un ancien opposant. Mais disons, depuis 14 ans, il était de tous les gouvernements. Il avait notamment été un ministre de la communication extrêmement agressif vis-à-vis de l'opposition. Et en juin, il démissionne.
Donc c'est tout récent.
C'est tout récent. Il démissionne, se présente comme candidat. Et tout le monde se dit, bon, le gars, il n'est pas très crédible, il joue pour son propre jeu, sachant qu'au Cameroun, étant donné le niveau de corruption existant, il y a toujours cette méfiance des candidatures suscitées par le pouvoir lui-même pour donner une illusion d'élection démocratique. Et tout d'un coup, à la mi-septembre, alors que l'opposition était péniblement en train de négocier un éventuel ralliement, mais pour qui, mais comment, etc., un groupe d'activistes qui s'était autoproclamé médiateur, mais avait été mollement accepté par les candidats de l'opposition, des activistes qui ont une sorte de légitimité historique, parce qu'il y a notamment Anissé Ekané, qui est connue depuis les années 70 pour à la fois avoir revendiqué l'héritage de la guerre d'indépendance, sujet très lourd au Cameroun, et d'avoir été de tous les combats contre Biya. Donc ce groupe décide, le 13 septembre, d'autoproclamer Issachi Romain, pardon, candidat consensuel de l'opposition. Alors, la date du 13 septembre est une date symboliquement, émotionnellement très forte aujourd'hui encore au Cameroun, parce que c'est la date de l'assassinat du principal leader de la résistance indépendantiste au Cameroun en 58, Ruben Oumniobé, qui a été donc tué par les forces françaises, décapitant ainsi le mouvement indépendantiste. Donc, ce 13 septembre, il proclame ça, ça aurait pu faire pchit, surtout qu'il n'a pas eu de validation des autres candidats officiellement désignés pour cette course présidentielle. Et tout d'un coup, il y a eu un espèce d'engouement, c'est-à-dire que la greffe a prise et que les Camerounais ont commencé à se rendre en masse au meeting de Chiroma. Moi, j'ai insisté à un de ces meetings et c'est vrai que c'était totalement impressionnant, la foule qui se rendait sur place, suivait le cortège, les gens, tous les gens au balcon hurlant le changement, pour un gars dont les Camerounais savent pertinemment qui il a été. Mais
et lui, que dit-il dans ces meetings auxquels alors, vous avez assisté? Il y a l'attente de la foule, mais lui, que promet-il?
Lui, il fait son mea culpa, il promène de n'être qu'un président de transition, c'est-à-dire qu'il ne fera pas un mandat de 7 ans, et surtout, il promet d'être l'homme d'Issérail qui va permettre de renverser la table. Et en fait, en discutant avec les gens pendant ces meetings, personne n'est vraiment dupe. Mais il y a une phrase qui avait fait aussi constituer un autre déclic au démarrage de la campagne. C'est une phrase tirée d'une homélie d'un évêque du nord du pays. L'homélie a eu lieu en janvier. Mais depuis, la phrase est devenue une sorte de slogan que tout le monde se répète. Cet évêque au nord du pays avait fait une diatribe très violente sur l'état du pays en disant « ça suffit, on a trop souffert. Aujourd'hui, il vaudrait mieux le diable plutôt que Biya. »
Il vaudrait mieux le diable plutôt que Biya.
Et le diable plutôt que Biya, c'est devenu le moteur du ralliement à Chiroma. C'est assez paradoxal. Mais l'idée, elle est plus d'essayer renverser un pouvoir vieux de 43 ans qui ne brille pas, c'est le moins qu'on puisse dire, par ses réalisations, que avoir l'espoir en un nouveau président qui serait vierge de toute critique, de tout passé, etc. Et puis les gens se disent autre chose. Il y a quand même une conscience politique forte au Cameroun. Hein. Et les gens se disent autre chose. Si on réussit à renverser Biya, c'est pas lui qui sera un problème si jamais ça dérape avec lui. On aura déjà fait l'essentiel. Maintenant, ce raisonnement, il est loin d'être gagné, parce que même si les premières indications du vote de dimanche montrent globalement une large avance de Chiroma, nous sommes dans un pays, comme vous l'avez dit, où les institutions qui valident et comptent le vote sont aux mains du pouvoir. Et donc, on est dans le bras de fer qu'est-ce qui va se passer au moment de la proclamation des résultats, sachant que beaucoup d'observateurs disent que l'ampleur de la victoire de Chiroma rend quand même la triche compliquée.
Une des incertitudes dans ce moment d'attente très particulier entre le vote et la proclamation des résultats, qui est particulièrement long, c'est aussi de savoir ce que fera l'armée, qui peut avoir un pouvoir de bascule décisionnaire. Est-ce que vous avez perçu des signes montrant que l'armée pourrait se désolidariser du gouvernement, ou est-ce que ça reste la grande inconnue ?
Je dirais tout d'abord que ça reste la grande inconnue. Biya régulièrement remanie son état-major parce qu'il a beau être absent du pays, il veille à sa sécurité et fait en sorte que les officiers suspectés d'être frondeurs soient écartés ou marginalisés. Et puis ces remaniements font que au sein même de l'armée il y a une certaine suspicion, donc je doute que l'armée soit prête à changer effectivement de camp, même si en réalité, ce sont des choses qu'on ne maîtrise jamais, et c'est ce qu'on voit à Madagascar ces jours-ci. Il y a aussi au sein, parmi les militaires, des déclics qui sont plus souterrains, je dirais. Et même si les décomptes ne sont pas publics, moi, on m'a fait part de certaines casernes du pays qui avaient voté majoritairement pour Tchiroma. Donc, ce n'est pas certain. Mais évidemment, ce qui va se jouer, parce que là, il y a beaucoup d'appels à ce que les gens descendent dans la rue. Il y a déjà eu des mouvements d'humeur assez importants à Douala, à Chang, et même à Yaoundé, où les gens ont attrapé des... ont surpris des tentatives de bourrage d'urnes et ont mis le feu à des bâtiments publics. Donc maintenant, il y a un appel à la mobilisation dans la rue. Mais la mobilisation dans la rue, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer si l'armée tire à balles réelles ? Il y a un moment où, effectivement, le risque, c'est qu'une répression très sévère décourage le mouvement, décourage l'appel à la résistance. Donc, évidemment, le jeu des militaires est une question très importante.
On suivra dans les prochains jours comment la situation va évoluer au Cameroun. Pour revenir sur les racines de l'exaspération des Camerounais, vous avez rencontré Maria Malagardis à Douala, l'archevêque de la ville, Samuel Kleda. Quel constat cet homme dresse-t-il de l'état du pays ?
Alors c'est intéressant parce que l'Église catholique est assez mobilisée dans la dénonciation du régime. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet évêque du nord du pays qui avait dit « mieux vaut le diable que Biya ». L'archevêque de Douala, qui est une personnalité très importante, lui aussi ne cache pas à la fois son désarroi et sa colère face à l'état du pays, et il a fait plusieurs homélies, plusieurs discours où il évoquait la mort lente du pays, le fait que effectivement c'est quelque chose qui est très frappant, je dirais, qui s'inscrit complètement dans le paysage. Moi, il se trouve que j'ai habité au Cameroun il y a une trentaine d'années, c'était déjà Biya au pouvoir, mais c'était encore un pays. C'est un pays riche en ressources naturelles. Il y a du pétrole, il y a du bois précieux. Il y avait, et en partie, il y a toujours une classe moyenne éduquée. Donc, les ressources sont là. C'était déjà un pays qui était quand même, qui souffrait il y a 30 ans de corruption, qui souffrait de détournement et de dysfonctionnement. Mais j'ai été surprise de constater à quel point le délabrement s'inscrit sur les façades des immeubles, sur les routes surtout, et avec l'archevêque nous en avons longuement parlé, les routes qui sont complètement délabrées, alors que le réseau routier était il était maigre, je dirais, mais il était plutôt bon au Cameroun quand moi j'y habitais.
Et sans route, vous dit-il d'ailleurs, il n'y a pas de développement possible. Comment imaginer
l'installation
d'une entreprise?
Bien sûr, bien sûr,
bien sûr. D'entreprise, si
bien sûr. Et puis nous sommes dans des pays comme beaucoup de pays africains où une part vitale de l'économie est assurée par le commerce, par les échanges, souvent à un niveau informel, mais qui permettent aux gens de vivre. Or, quand vous mettez 7 heures pour faire Yaoundé-Douala, il y a 250 kilomètres, alors qu'il y a 30 ans, on pouvait faire l'aller-retour dans la journée, évidemment, ça stoppe, c'est un frein au développement.
Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on évoque aussi la rencontre que vous faites avec Jean Rameau Sokoudjou, qui est le roi des Bamendjou, une figure très respectée dans tout le pays, et qui vous parle de son opposition, qui partage aussi tout ce constat sur le délabrement du pays, et puis qui a réinscrit ça dans une histoire plus longue et qui vous dit au Cameroun, il y a une colère historique contre la France qui a contribué à instaurer des régimes dictatoriaux pro-Paris depuis l'indépendance en 1960.
Oui, alors ce Jean Rameau Sokoudjou est un personnage, c'est un monument de mémoire de l'histoire du pays, puisqu'il a tout traversé. Il est devenu roi selon un processus très complexe, mais il a connu effectivement cette guerre d'indépendance. Il faut savoir que le Cameroun est le seul pays d'Afrique francophone, ancienne colonie française, à avoir pris les armes pour réclamer son indépendance. Donc ce mouvement indépendantiste, je parlais de Ruben Omniobé tout à l'heure, a été écrasé dans le sang, au prix de beaucoup de victimes. Et depuis, évidemment, le pouvoir a été confié à des régimes plus dociles. Paul Biya est l'héritier du précédent président qui avait pris le pouvoir au moment de l'indépendance, pouvoir accordé par les Français. Et cette histoire, encore taboue, elle est c'est un traumatisme très fort, parce que les gens se souviennent, c'est à hauteur de générations encore vivantes, mais c'est aussi une revendication pour qu'on la fasse connaître, cette histoire, et pour qu'on finalement aussi, peut-être qu'on sache les régimes qui en sont l'héritier.
Merci beaucoup, Maria Malagartis. Je renvoie vers vos reportages sur le site de Libération, sur l'élection présidentielle, mais aussi sur toutes les personnes que vous rencontrez et l'histoire du Cameroun. Des liens seront faits sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tolo mwalinga netemba, son mwabelemba. Tolo mwalinga netemba, son mwabelemba. Nabiloko malinga mongo, nabipeloko bedemo bongo. Nabiloko malinga mongo, ipelo kobe demo bongo. Dolo mwalinga netemba, son mwabelemba. Dolo mwalinga netemba, son mwabelemba. Nabiloko malinga mongo, nabipelo kobe demo bongo. Nataka mule mawo beba, ewa mongwala etume. Nataka mule mawo beba, ewa mongwala etume. Utiyamba nanja denge moni bwamba, odiyamba na jae wemba, denge moni bwamba.
L'amour ne peut se forcer, si tu veux partir, pars, chantait le musicien camerounais Henri Dikongé. La chanson date de 1995, elle s'intitule Ndolo, ce qui signifie amour en douala. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission d'actu du vendredi, direction les États-Unis.